L'Europe, Stéphane Le Neuf.
Vote du traité budgétaire européen, rentrée parlementaire sur fond de désaccord dans la majorité. Que prévoit ce traité qui instaure la règle d'or? Nous condamne-t-il à l'austérité? Vos questions dès 17h au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Questions sur l'Europe, ce soir sur France Inter à 19h20.
Bonjour, c'est Daniel Gatti. Je vous invite à notre Festival Beethoven avec l'Orchestre National de France, votre Orchestre National de France.
L'intégrale des symphonies en 5 concerts avec 5 créations inspirées à vivre du 1er au 15 novembre 2012 au Théâtre des Champs-Élysées.
J'espère que pour vous, Beethoven sera comme moi l'entrée au paradis.
Tous nos concerts au 01 56 45 16 et sur concerts.radiofrance.fr.
Venez!
Qui n'a pas un jour rêvé de lire France Culture? Alors qu'attendez-vous? France Culture Papier, la revue qui vous permet de retrouver chaque trimestre les grandes voix et les grands moments de France Culture, est disponible en librairie et en kiosque. C'est le 3e numéro, sorti le 6 septembre, disponible aussi sur abonnement. France Culture Papier, une coédition France Culture.
Là-bas, si j'y suis sur Inter, c'est maintenant avec Bip Daniel Mermet-Néron.
Magnifique, puissant, extraordinaire et regretté Cornelius Castoriadis. Merci à toute l'équipe de nous avoir rediffusé cette interview de 96. Cornelius Castoriadis, c'est plus que ça. C'est un véritable et formidable moteur qui ne demande qu'à fonctionner et à faire son chemin. Cependant, on croit, et comme Cornelius Castoriadis l'a dit, on nous laisse croire, on nous fait croire qu'on n'est pas capable de faire fonctionner ce moteur. Mais bon sang, cessons de blablater, pensons, faisons et changeons. Les problèmes, on les connaît, cherchons plutôt des solutions. Et nous sommes très nombreux à avoir des solutions pleines nos sacs. Pour être citoyens, comme le préconisait Castoriadis, assez d'écouter des bonimenteurs, tous ensemble, on est capable d'accoucher de propositions constructives. Parce que, jusqu'ici, ça ressemble plutôt à des paroles de gosses qui se battent dans une cour de récré. Sauf que c'est plus grave et ô combien ridicule. Tiens, je propose à mon ancien patron, le ministre de l'Éducation nationale, d'inaugurer dans toutes les classes et à tous les niveaux des cours de communication non violente. Ce serait constructif, ça. Et un coup de pied en passant à tous les puissants impuissants, on ne peut plus traiter les gens et leur parler comme cela se pratiquait il y a 50, 100 ans et plus. L'époque révolue, c'est fini, ça. Alors, en attendant, merci. Continuez à nous rafraîchir la mémoire avec, entre autres, un petit coup de Cornelius Castoriadis. Et encore bravo, c'était Claudette de Saint-Aurès-de-Gameville, près de Toulouse.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG, les amoureux médusés de notre gauche. Je voulais juste dire quelques mots à propos d'Arnaud Lescroc, dit le Belge. Il a fait Polytechnique, c'est vrai, et c'est vrai qu'il pratique bien toutes les techniques, notamment fiscales. Après avoir reconverti l'entreprise familiale de bois en bétonneur du littoral, il quitte déjà la France pour les États-Unis en 81. Là, il crée 2 ou 3 sociétés qui toutes font faillite. De retour en France, il rachète la financière à gages, c'est-à-dire Boussac des frères Dalton, avec une aide de 2 milliards de francs du gouvernement Fabius. La contrepartie, c'était de ne pas licencier 16 000 personnes, de ne pas démanteler le groupe. Malgré les injonctions de Bruxelles, il ne remboursera à rien, licenciera et démantèlera le groupe, ne gardant que Dior. Le reste, c'est une saga de prédateurs. Bernard Arnault est un escroc de haut vol, certes, mais il nous doit de l'argent, des emplois. À titre personnel, c'est un piètre gestionnaire. Sa seule compétence, ça il faut le reconnaître, était de savoir s'entourer de fiscalistes, de juristes astucieux. Et lorsqu'il deviendra résident monégasque, Arnaud Lescroc nous donnera encore, du haut du rocher, des leçons de morale. Quelle vie vit-on? Salut les AMG.
Bonjour, l'association Autisme Jura vous invite à son festival que nous organisons ce vendredi 14 septembre à Champagnole, à l'Oppidum. Nous organisons ce festival à l'occasion de l'année de l'autisme, enfin élue grande cause nationale. Vendredi soir, donc à partir de 18h30, nous vous proposons la diffusion du documentaire de Marc Lavoine, Toi et moi on s'appelle par nos prénoms. Il y aura ensuite un petit temps de restauration sympathique animé par le trio Affaires Jazzées. Il y aura ensuite à 20h30 le spectacle de Laurent Savard, le bal des pompiers, et enfin le concert de Léon et les Desperados. C'est 15€ l'entrée, les billets sont à prendre sur place ou à réserver dans les offices de tourisme. Donc nous espérons vous voir nombreux ce vendredi 14 à partir de 18h30, donc à Champagnol, dans le Jura. Je vous remercie, au revoir.
Aux AMG autour de Dijon, réouverture du repère, mardi 11 à 20h, au Vieux Léon, 52 rue Chenin. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 39 ans, un jour comme aujourd'hui, les avions de l'armée chilienne attaquaient le palais La Moneda à Santiago. Et avec ça commençait la fin d'un rêve, du rêve d'un peuple qui croyait qu'il pouvait accéder au socialisme par la voie démocratique. Pinochet est arrivé au pouvoir, vous connaissez la dictature, des morts, des disparus, torturés, exilés, un pays divisé, des millions de vies complètement détruites. Il est mort dans son lit, lui, tranquillement, comme Franco et plein d'autres dictateurs. Il n'y a toujours pas la justice au Chili, même pas pour les étudiants, même pas pour les Indiens. Rien n'a changé, ou pas grand-chose. Peut-être un jour, nous arriverons à comprendre comment il faut faire. Pour l'instant, les doutes. Bon courage à tous quand même. Passez une bonne journée. Allez, à bientôt.
Merci, chers AMG, pour tous ces messages rutilants. Je voudrais dire à notre ami Bernard Arnault qu'il ne faut pas prendre ça trop mal, hein, l'auditeur qui le traite d'escroc, bon, bah, c'est le coup de la colère. Mais il sait très bien que voilà de longues années, à plusieurs reprises, là-bas, si j'y suis, s'est intéressé à lui et à son brillant parcours. Aujourd'hui, c'est Diplo. Vous savez bien, tous les mois, depuis je ne sais combien d'années, on se retrouve avec l'équipe du monde diplomatique. Là, c'est sur le numéro eh bien, du mois de septembre. Et c'est Guy Vantin qui mène le débat. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Dans la nuit de vendredi à samedi, une embarcation de fortune chargée d'immigrants comoriens a fait naufrage sur les côtes de Mayotte. On a repêché 3 survivants, 6 morts et il reste 27 disparus. Les recherches sont arrêtées, donc le chiffre de 33 morts est probable. La nouvelle est parue sur RFO, Réunion, RFO Mayotte. En avez-vous entendu parler dans l'Hexagone? Moi, non, mais je me trompe peut-être, vous pouvez me détromper. Je vous remercie.
Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe et aux AMG. Voilà, je sais, c'est un peu facile, mais je profite de votre répondeur pour me soulager de mon écœurement en apprenant que les revenus du capital ne seront pas pris en compte pour la taxe des 75% au-delà du million d'euros. Or, ça fait trop longtemps que ces revenus du capital sont le fait de la sueur, des larmes et aussi du sang maintenant des salariés, des exploités, des précaires, des chômeurs et la cause de la pauvreté et de la misère. Plus que jamais, nous sommes le bétail humain sous le joug des mafias financières. Bon ben, merci pour cette petite catharsis.
Le café repère des AMG du Vaucluse à Coustelet donc vous attend le mardi 11 septembre à 19h chez Babouchka Quai des Entreprises pour échanger autour du thème la Palestine. 64 ans après la création de l'État d'Israël, la situation actuelle du peuple palestinien apparaît presque anachronique tant elle s'apparente à d'autres époques. 64 ans et toujours s'aggrave la double iniquité historique dont sont victimes les Palestiniens, celle d'une occupation militaire de la part d'Israël et celle de la communauté internationale qui masque mal sa complicité avec la puissance occupante. Les Palestiniens sont toujours là, désarmés, mais pas résignés. Plus d'infos sur www.caféreper84.com.
Salut, c'est là-bas si j'y suis avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, voici l'équipe du Monde Diplomatique au grand complet ou presque pour ce numéro de septembre 2012. Et je vous retrouve Serge Halimi, tout juste descendu de l'avion. Vous venez de rédiger cet éditorial, La Tentation du Pire, puisque vous arrivez des États-Unis où vous avez, si je crois bien, suivi les conventions démocrates et républicaines.
Donc ce qui était frappant pendant cette période électorale, c'était la difficulté du président sortant, Barack Obama, confronté à un échec social et un échec politique. L'échec social, c'est que, naturellement, près de 4 ans après son élection, la plupart des changements qu'il avait annoncés ne sont pas au rendez-vous, et surtout que le taux de chômage, le nombre de personnes sans emploi, reste considérable aux États-Unis. Et alors là, au moment de son discours, il y avait un paradoxe, parce que quand il a pris la parole pour accepter la désignation de son parti, jeudi dernier, donc le 6 septembre, on venait d'annoncer que l'indice Dow Jones de Wall Street atteignait son niveau le plus élevé depuis décembre 2007, que le Standard & Poor's des 500 plus grosses entreprises américaines atteignait son niveau le plus élevé depuis janvier 2008 et que l'indice Nasdaq des valeurs technologiques atteignait son niveau le plus élevé depuis 12 ans. En d'autres termes, pour les investisseurs, ça allait plutôt bien. Le seul problème, c'est que la plupart de ces investisseurs sont mobilisés aux côtés de son adversaire Mitt Romney. Donc la politique d'Obama a plutôt été favorable à ceux qui, vraisemblablement, vont voter contre lui. L'argent organisé attendant qu'une victoire des Républicains se traduise par une nouvelle baisse d'impôts, qui a d'ailleurs été promise par le candidat républicain. Donc quand Obama s'exprime, c'est sur fond d'indicateurs qui sont très bons pour les investisseurs. Le lendemain de son discours, on annonce les chiffres du chômage, les chiffres de l'emploi, et ils sont mauvais. Le taux de chômage se maintient à un niveau élevé, 8,1%, et aucun président récemment n'a été élu avec des chiffres du chômage aussi mauvais. Mais surtout, la proportion de la population active, la proportion de la population qui travaille et qui est salariée, est à un niveau bas, historiquement bas, très bas. Des millions d'Américains ont renoncé à chercher un emploi et ne figurent même plus dans les statistiques du chômage, parce que les statistiques du chômage exigent que vous ayez fait des efforts particuliers dans les 4 dernières semaines. Et si vous n'avez pas d'allocation chômage, si vous pensez que vous n'avez aucune perspective de trouver un emploi, vous ne faites pas d'efforts particuliers, mais vous êtes quand même sans emploi, sans être comptabilisé comme chômeur. Or, ceux qui souffrent le plus sont les électeurs potentiels de Barack Obama, ceux qu'il a mobilisés il y a 4 ans.
En disant « hope, change ».«
Hope, change », et qui ne voient rien venir, si ce n'est sur le front des indicateurs boursiers qui, eux, sont très bons. Donc c'est un peu ce que j'évoque donc dans cet éditorial. Avec Obama, ça va mal, mais avec les Républicains, ça pourrait être pire. Et il s'agirait en effet pour eux, avec l'élection à la Maison-Blanche, d'une victoire qui leur donnerait le champ libre. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a une espèce d'équilibre entre la Maison-Blanche, détenue par les démocrates, et la Chambre des représentants, détenue par les républicains, qui fait que rien de bien ne se fait, mais rien de catastrophique n'est engagé non plus.
Obama dit « si j'ai pas pu le faire, c'est à cause des votes d'opposition, et si j'ai pu le faire, c'est grâce à moi ».
Voilà. Et les républicains disent « ce qui ne va pas bien, c'est à cause d'Obama, et ce qu'on arrive à maintenir en état, c'est parce que nous avons une majorité à la Chambre des représentants ». Là, s'il l'emportait à la Maison-Blanche, il détiendrait tous les leviers du pouvoir. La Maison-Blanche, la Chambre des représentants, vraisemblablement le Sénat basculerait en leur faveur. Ils contrôlent la majorité des États et la Cour suprême leur est largement acquise. Donc ils pourraient mettre en œuvre leur programme.
Vous le décrivez comme assez carabiné.
Il faut d'abord, avant d'évoquer leur programme, voir le paradoxe que traduirait l'élection de Mitt Romney. Parce que Mitt Romney est un millionnaire, multimillionnaire, il dispose d'une fortune équivalente à 250 millions de dollars, qu'il a acquise en dirigeant un fonds spéculatif. Et il s'est donc enrichi grâce à la spéculation. Et cet homme qui s'est enrichi grâce à la spéculation profiterait d'une crise économique largement provoquée par la spéculation. Donc on aurait tout de même cette situation un peu paradoxale, et les démocrates ne manquent jamais de le rappeler. C'est leur carte maîtresse. C'est peut-être que ça va mal, mais regardez qui serait président des États-Unis. Pour eux, en quelque sorte, Mitt Romney, c'est un peu comme Bernard Arnault chez nous.
Sauf que lui, il ne va pas en Belgique, il va aux îles Caïmans.
Voilà, exactement. Et lors de la convention démocrate, il y a un ancien gouverneur de l'Ohio qui a eu cette formule. Mitt Romney est tellement peu patriote que même son argent exige un passeport. Son argent, il prend des vacances d'été sur les plages des îles Caïmans. et ses congés d'hiver sur les pistes de ski des Alpes. Fin de citation. Donc c'est un peu l'argument qu'emploient les démocrates. Et quand je dis que cela pourrait être pire, pourquoi cela pourrait être pire? Alors là, on en vient à leur programme. Leur programme, c'est de recommencer Reagan comme s'il n'y avait eu aucune conséquence désastreuse sur le plan des finances publiques. Donc, ils promettent d'éliminer le déficit public, qui est considérable. Comment? En réduisant les impôts, c'est curieux comme technique, et en augmentant les dépenses militaires. Alors, c'est un peu l'équation impossible. Éliminer un déficit public considérable en réduisant vos recettes et en augmentant vos dépenses, a priori, ça ne marche pas. Sauf que pour eux, ça marchera parce qu'ils ont l'intention, et je pense que cette fois-ci, ils le feraient, ils auraient les moyens de le faire, d'éliminer bon nombre de dépenses publiques civiles, l'éducation, l'environnement, les infrastructures, en disant « chacun paie ce dont il a besoin ». Ça n'est pas à l'État d'intervenir. Il y a une idéologie anti-étatique qui a atteint son point culminant, qui considère en quelque sorte que la société est composée de deux groupes, les patrons et les parasites, et qu'il faut encourager les patrons et punir les parasites.
Toujours l'idéologie winner-loser, mais poussée à son extrême, à point que là, ce que vous décrivez, c'est carrément couper la main gauche de l'État, quoi. Voilà. Plus besoin d'aider, plus besoin de secourir.
Voilà, à la fois ces programmes donc de dépenses publiques, civiles, infrastructures, etc., et surtout en s'attaquant aux gros morceaux, les programmes publics d'assistance aux personnes âgées, qu'on appelle Medicare aux États-Unis, et aux indigents, qu'on appelle Medicaid. Et alors là, l'idée des Républicains, ces dépenses-là ne cessent d'augmenter. Parce qu'il y a toujours plus de personnes âgées, que les soins médicaux coûtent de plus en plus cher, et qu'il y a de plus en plus d'indigents, parce qu'une fois que vous êtes même de classe moyenne et qu'on vous place dans une maison de retraite et que vous devez payer une somme importante en maison de retraite, que vous avez vendu votre domicile pour payer votre maison, il ne vous reste plus rien, vous êtes indigent et vous êtes pris à la charge de l'État. Eh bien, Romney et son colistier, Paul Ryan, qui est encore plus extrémiste que lui, disent « on va donner à chacun un montant fixe, et puis après, il se débrouille. Ouais. » Et ce montant fixe correspond au niveau des dépenses actuelles, dont on sait qu'elles seront insuffisantes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, compte tenu de l'explosion des dépenses. Eh bien là, chacun devra se débrouiller.
« President Obama promised to begin to slow the rise of the oceans. »
Le président Obama a promis de ralentir la montée des océans.
Mitt Romney, convention républicaine, 30 août 2012, Tampa, en Floride.
And to heal the planet.
Et de sauver la planète.
My promise is to help you and your family.
Ma promesse est de vous aider, vous et votre famille.
Et ce programme-là, je pense encore une fois que si Mitt Romney était élu, il serait mis en œuvre. Parce que, en plus, règne cette espèce de hantise de la dette publique et ce désir de la réduire, et qu'il est évident que le gros morceau qui vous permettrait de réduire les dépenses publiques, ce sont les dépenses médicales. La difficulté d'Obama, c'est que son électorat à lui, qui est réel, potentiel, ne sera peut-être pas aussi mobilisé que l'électorat blanc conservateur qui déteste Barack Obama et qui, d'une certaine manière, on l'a vu lors de la convention républicaine, estime que Barack Obama est un homme qui n'a jamais travaillé. Parce que pour eux, quelqu'un qui a eu une bourse pour faire des études et puis qui ensuite a enseigné n'est pas un vrai travailleur. Ça n'est pas du vrai travail, si vous voulez, pour reprendre une formule de Sarkozy. Et d'ailleurs, au moment des conventions républicaines, vous avez eu le président de la Chambre des représentants qui est républicain et qui a dit le problème avec ce président, c'est qu'il n'a jamais rien fait, qu'il n'a jamais eu un vrai travail. Et il y a donc cette idée que dès lors que vous travaillez dans le secteur public, que vous êtes un fonctionnaire, ou que vous travaillez au service de l'environnement, ou de l'éducation, ou de je ne sais quoi, que vous n'êtes pas chef d'entreprise, que vous ne gagnez pas de l'argent comme Mitt Romney, vous n'êtes pas un vrai travailleur. Et il est certain que cette idéologie percute une partie de l'électorat, qui est peut-être minoritaire, mais qui risque d'être plus mobilisé que l'autre le 6 novembre prochain.
Mitt Romney. Salami. Mitt Romney, salami. Mitt Romney is my favorite dude. Salami is my favorite food. Yeah, Mitt's my boy. Salami is not a toy, yo. Mitt Romney is very nice. Salami is cold, cold as ice. Mitt Romney is very solid. Salami is not a salad. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yo, salami. It is inanimate. Mitt Romney is a presidential candidate. If you eat salami, you're doing the right thing. If you know Mitt Romney, he's from the right wing. Yo, salami is like a cold shower. Mitt Romney. Salami. Mitt Romney. Salami.
Suite du sommaire du monde diplomatique de septembre 2012 avec vous, Benoît Bréville. Alors, j'ai une question à poser, parce que normalement, c'est en début d'été que les magazines font des numéros, comment être maigre, comment maigrir. Et vous, vous choisissez de la fin de l'été, quand on a rangé les maillots, pour parler de l'obésité comme un mal planétaire.
J'ai abordé la question sous un angle assez différent des magazines.
Il n'y a pas de recette sur comment...
Non, c'est ça. C'est-à-dire, c'était pas l'idée, c'était pas de donner une recette, parce que cette idée de recette pour maigrir sous-entend un petit peu que les gens qui sont trop gros seraient de leur faute. Et qu'en fait, s'ils faisaient des efforts, qu'ils faisaient régime, qu'ils faisaient plus d'activités, etc., ils pourraient être moins gros. Et nous, j'ai plutôt essayé de montrer les mécanismes qui ont poussé à la prise de poids aux États-Unis. Alors, en fait, l'équation est assez simple, puisque c'est que, bon, les gens, dépensent moins de calories, ils en consomment plus. Alors bon, ils en dépensent moins, ça c'est l'aspect le plus connu. On sait.
Avec toujours ces chiffres très connus, 30% d'Américains obèses, 30% en plus en surpoids, voilà. Et tous en voiture, derrière la télé.
Voilà,
ce qui est une
multiplication par deux depuis une trentaine d'années quand même. Donc ça allait assez vite. Et donc effectivement, ils sont de plus en plus dans la télé, les inventions de la modernité font qu'on fait moins de gestes, le lave-vaisselle, le couteau électrique, l'escalator, l'ascenseur, etc. Mais moi, je me suis surtout intéressé en fait à pourquoi ils consomment plus, parce que c'est pas du tout une évidence. Normalement, on pourrait imaginer que les gens consomment ce dont ils ont besoin et qu'une fois qu'ils ont plus faim, ils arrêtent de manger. Et en fait, le paradoxe qu'on a pu constater depuis une trentaine d'années, c'est que les Américains consomment plus au risque de mettre leur santé en danger, puisqu'on estime qu'environ 200 000 personnes meurent chaque année d'obésité. C'est deux fois moins que le tabac, qui est estimé à 400 000, mais c'est beaucoup plus que les accidents de voiture, l'alcoolisme, etc. Donc, on consomme plus de nourriture au risque de se mettre en danger. Alors, pourquoi ? Pourquoi ça ? Donc, c'est là que je suis rentré dans les dessous des techniques marketing de l'agroalimentaire, qui, déjà, en 20 ans, ont inondé les étals des supermarchés de nouveaux produits. Je crois que je cite le chiffre de 116 000 nouveaux produits depuis les années 1990, et surtout des produits gras, saturés en sucre, en sel, etc. Tous ces nouveaux produits créent un désir de découverte permanent et poussent à l'achat, d'autant plus que cet achat est incité par des publicités qui sont toujours plus ingénieuses, qui s'adressent notamment désormais aux enfants en utilisant des personnages de dessins animés. Même les Teletubbies, qui est un dessin animé qui s'adresse aux moins de 3 ans, a été utilisé par McDonald's pour promouvoir son Happy Meal, par exemple. Donc du coup, les enfants, notamment parce que il y a eu une mutation du regard porté sur les désirs de l'enfant et parce que la croissance économique a permis un développement du pouvoir d'achat des familles, sont devenus des consommateurs à part entière qui influent sur les achats de leurs parents.
Des prescripteurs, comme on dit.
C'est des prescripteurs, exactement, qui influent sur les achats de leurs parents et donc qui sont devenus une cible privilégiée. Alors pour écouler ces 116 000 nouveaux produits, les enfants ne pouvaient pas suffire. Alors ils se sont aussi adressés aux pauvres, puisque les pauvres, pendant longtemps, ne pouvaient pas manger convenablement aux États-Unis. Les produits frais coûtaient très cher, donc ils mangeaient souvent insuffisamment. Et encore une fois, avec la croissance économique, augmenter le pouvoir d'achat, mais aussi la mécanisation, la production, les nouvelles techniques d'emballage, de conservation, de production industrielle, les produits sont devenus beaucoup moins chers, et en particulier les produits transformés. Et ces produits transformés qu'on trouve surgelés, empaquetés, sous vide, etc., dans les supermarchés, sont souvent beaucoup moins sains que des produits frais. Et donc, il coûte moins cher de manger des produits transformés malsains que de manger des légumes ou des fruits aux États-Unis.
Junk food, comme on dit.
De la junk food. Et c'est aussi donc le cas en France et dans un certain nombre de pays occidentaux.
Mais c'est là où vous en venez à l'aspect du conditionnement.
Voilà.
C'est-à-dire que on se demande si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que les pauvres Américains sont obèses parce que les portions sont grosses ou les portions sont-elles grosses parce qu'ils en mangent beaucoup ? Et vous démontrez que tout ça, il y a vraiment une causalité, c'est-à-dire que c'est les producteurs, c'est l'industrie agroalimentaire qui a décidé de jouer cette carte-là.
Voilà, la baisse du prix de l'alimentation en fait a vraiment profondément changé la donne du marché, au sens où désormais le coût de l'aliment en lui-même dans un produit qu'on achète représente une part si faible par rapport à la promotion, à la publicité, à la conception, à la distribution, au transport de l'aliment, qu'une marque a intérêt à mettre le plus de produits possible dans un même contenant. Et en fait, c'est là qu'on touche à un aspect assez méconnu de la psychologie humaine, qui est que quand on a un produit devant soi plus gros, eh bien on a tendance à plus manger. Donc il y a eu plein d'études qui ont été faites sur ce sujet. Si on vous donne un seau de pop-corn au cinéma, vous allez peut-être pas le manger en entier, mais vous allez en manger plus que si on vous donne un verre de pop-corn. Et c'est pareil si quelqu'un apporte des gâteaux dans une entreprise et qu'on met des gâteaux en permanence à la vue des employés, on peut être certain qu'ils vont être finis, alors même que les gens n'auraient pas mangé s'il n'y avait pas eu de gâteaux. Les gens mangent plus quand ils ont plus de nourriture devant eux. Et ça a été réutilisé par l'industrie des fast-food justement et de la restauration avec ce qu'on appelait la technique du supersize, qui permettait, quand on a un menu devant soi, moyennant quelques dollars supplémentaires, mais suffisamment peu pour créer un effet d'aubaine dans l'esprit du consommateur, d'agrandir son Coca-Cola, d'agrandir sa portion de frites ou de mettre un steak haché supplémentaire dans son hamburger. Et selon ce même principe qu'on mange plus quand on a plus devant soi, eh bien les portions se sont mises progressivement à augmenter. La taille standard est devenue plus grande. Et je citais ces chiffres au McDonald's où, il y a une quarantaine d'années, la seule portion de boisson servie faisait 20 centilitres. Et aujourd'hui, la plus petite fait 35 centilitres et la plus grande presque 1 litre. Et le hamburger qu'on vendait à l'époque était aussi l'unique hamburger et désormais celui qu'on met dans le Happy Meal et qui est destiné aux enfants. Et les adultes en mangent plusieurs pour faire un repas. Donc du coup, c'est, pour répondre à votre question, c'est vraiment l'augmentation de la portion qui a créé le fait que les gens mangeaient davantage. Supersize me. I said I wanted supersize. Supersize me. Can I get like a bucket with a handle? Supersize me. Two for a dollar? I'll take it. Supersize me. All I need is three more forks. Supersize me. And another set of hands. Supersize me. That's a pretty good idea. Wait, the sign. The sign said free refills.
Et ce qu'il y a d'intéressant dans notre article, c'est que vous insistez justement, vous mettez bien au clair comment dans les pays occidentaux sont principalement les pauvres qui subissent justement cette obésité par l'offre qui est donnée et par le marketing très agressif, mais comment dans les pays en développement, c'est l'inverse. C'est ceux qui réussissent, qui veulent aussi devenir gros comme dans les pays riches.
Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est passé en fait un petit peu le même phénomène qu'avec la cigarette, à savoir une fois que le marché américain et occidental s'est mis à être complètement saturé, les législations plus contraignantes sont arrivées, restreignant la publicité en direction des enfants, obligeant certaines marques à mettre le nombre de calories de leurs produits, etc. Eh bien, les marques se sont reportées sur des nouveaux pays, les pays émergents en particulier, où la législation est beaucoup moins stricte et où ils ont pu se déployer en toute liberté. Et dans ces pays, effectivement, ceux qui sont les principales cibles de ce marketing de l'agroalimentaire sont les nouvelles classes moyennes qui ont quitté les campagnes, qui ont donc accédé à tous les mêmes, la voiture, la télévision, aller manger dans les fast-foods, etc. Et donc dans ces pays-là, ce sont les classes moyennes et les classes supérieures qui sont concernées. Et l'embonpoint est véritablement devenu un signe de réussite sociale dans ces pays. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vu apparaître ces dernières années ce que les nutritionnistes ont appelé le double fardeau de l'alimentation, au sens où un certain nombre de pays, surtout pauvres, se retrouvent avec une portion de leur population qui est sous-nourrie, qui vit dans les campagnes, qui a du mal à manger suffisamment, et une autre portion de la population, donc surtout ces classes moyennes, qui vivent dans les villes, qui accèdent à une nouvelle société de consommation et qui se retrouvent en surpoids. Et à l'échelle planétaire, depuis quelques années, le nombre de personnes en surpoids, soit 1,5 milliard de personnes, dont 500 millions d'obèses, dépasse le nombre de personnes sous-nourries qui s'élève à 1 milliard de personnes.
Il y a plus de gros que de familles, quoi.
Voilà, au niveau mondial.
Spotte
publicitaire pour McDonald's.
Chicken McGrill, pesa azul, you Apollo,
I'm loving it.
Toujours au sommaire de ce Monde diplomatique du mois de septembre 2012, un grand dossier que vous avez dirigé, Martine Bullard, au sujet de la Chine, qui s'intitule « Pékin, pouvoir secret, puissance mondiale ». Avec une question, la Chine est-elle impérialiste ? Et vous qui êtes allé faire un reportage en Chine sur justement la présence et l'imprégnation du Parti communiste chinois dans l'État, dans la politique du pays, en annonçant au passage les mesures qui sont prévues pour le 18e congrès du Parti communiste chinois, qui, dit-on, va tout changer, tout chambouler, renouveler les élites. Vous dites qu'il n'en est pas grand-chose, en fait, dans la réalité.
C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. D'abord parce que c'est effectivement un congrès important. Ça fait à peu près un an que je travaille sur cette question d'essayer de pénétrer les arcanes du Parti communiste chinois. Je peux vous assurer que c'est pas très facile, parce qu'il y a une volonté de repli sur l'appareil d'État et sur le parti. Et effectivement, vous avez raison, il y a une totale confusion entre le parti et l'appareil d'État. Cela dit, ce congrès, ce 18e congrès, on ne connaît toujours pas la date. C'est-à-dire qu'en principe, ça devrait avoir lieu au mois d'octobre, Mais le contenu du congrès et la date du congrès, pour l'instant, on l'ignore complètement. Ça reste un élément important parce que d'abord, il y a 80 millions de membres du Parti communiste chinois.
Presque autant que la population allemande, si j'ai bien compris.
Exactement, c'est grosso modo la population allemande. C'est une population qui augmente. Le nombre d'adhérents au Parti communiste augmente depuis le dernier mandat de Hu Jintao, qui est le président, hein, et en même temps le secrétaire général du parti. Donc il y a 10 millions de personnes qui ont adhéré. Alors, ils adhèrent pour des raisons de carrière, parce que être membre du Parti communiste chinois, c'est être sûr d'avoir un emploi et surtout être sûr d'être promu. Il y a une jeune étudiante que j'interviewe à Canton, qui est à la fac de droit, et elle m'explique que c'est comme une amicale, au fond. C'est un moyen de pouvoir repasser d'un endroit à l'autre, être sûr de trouver un poste. Mais c'est pas que ça. Mais les jeunes adhèrent, parce que c'est plutôt les jeunes adhèrent au Parti communiste aussi par conviction. On adhère au parti parce que le secrétaire du parti local estime que vous êtes la meilleure élève ou le meilleur élève. Et donc, ça représente pour ces jeunes une sorte de promotion et de, comment dire, de reconnaissance. Et la jeune fille que je rencontre, mais j'en ai rencontré plusieurs comme ça, explique que quand elles ont adhéré au parti, quand ces personnes ont adhéré au parti, il y a eu une fête. Et elles étaient fières parce que dans leur lycée, c'était, ou dans leur, ou à la fac, c'était elles qui étaient distinguées et pas les autres. Donc, il y a cette dimension. La jeune fille raconte aussi, pour être tout à fait complet sur cette question, que quand on assiste aux réunions, on a la ligne officielle et ça ne se discute pas. Donc cette jeune femme se disait, je suis complètement déçue, d'abord ça me prend du temps, et en plus je suis obligée de dire à mes collègues, à mes copines, à mes copains, la version officielle. Et la version officielle, ce n'est pas exactement ce que je pense. Mais elle ne prendra pas le risque de dire autre chose que la version officielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas débat. Ce congrès, pour revenir sur l'importance du congrès, il est d'autant plus important que cette direction du parti, qui est à la fois ce que je vous raconte, c'est-à-dire on a une ligne et puis on n'en sort pas, elle est aussi en phase de renouvellement. C'est-à-dire c'est cette direction du congrès qui a qui a décidé de limiter les mandats, pas plus de 2 mandats, c'est-à-dire pas plus de 10 ans, pas plus de 68 ans. Quand on est dans des responsabilités nationales, ce qui fait qu'on se retrouve avec ce congrès qui va avoir lieu peut-être en octobre, avec le comité permanent du bureau politique et le cœur du pouvoir. Sur les 9 personnes, il y en a 7 qui vont changer. Sur le comité central, il y a 60-65% des membres qui vont changer. Donc le parti est quand même dans une inquiétude de comment ça va se faire, qui va changer, comment on va faire. Et dans une période qui est un peu difficile pour la Chine en général et pour le Parti communiste chinois en particulier. Première difficulté, c'est la difficulté économique. On est à 7,8% de croissance. Alors évidemment, quand on voit que M. Hollande annonce 0,8% en France, on se dit que 7,8% c'est très très bien, mais on était sur des trains de 9-10% depuis déjà une dizaine d'années. Et puis on a toute une partie de la population qui arrive sur le marché du travail, il faut l'absorber. Deuxième grand défi, c'est le défi social. Il y a un mécontentement considérable dans la population. Quand même, le budget pour la sécurité intérieure est désormais supérieur au budget militaire. Et on sait que le budget militaire augmente assez rapidement en Chine. Donc, ils ont un vrai problème. On ne peut pas continuer à manier la répression comme ça. Quels sont les mouvements sociaux qui existent? C'est les mouvements pour les salaires, pour l'emploi, pour le respect du droit social, où il y a vraiment une vraie mobilisation pour des questions très, très précises. Pour l'instant, il n'y a pas de rassemblement de tous ces mécontents. Il n'y a pas de leader qui s'en dégage. Il n'y a pas l'idée que les propriétaires plus...
Disons que c'est toléré tant que c'est pas politique. Tant que ça ne remet pas en cause la prééminence des cadres du parti communiste.
Exact. Si ça met en cause souvent la prééminence des cadres du parti localement, voilà. C'est-à-dire que...
Oui, ils peuvent sauter, ça peut être diffusé. Ils peuvent
sauter. Si quand vous êtes cadre, si vous avez une usine qui a pollué et que vous avez voulu essayer d'étouffer l'affaire, ou si la corruption, parce que c'est la grosse, grosse question aujourd'hui en Chine, c'est la corruption, une corruption qui est de moins en moins tolérée par la population, c'est pas tellement les inégalités. La population, les inégalités ne la mettent spontanément, ils ne disent pas les inégalités sont insupportables. En revanche, les inégalités liées à la corruption, c'est-à-dire l'enrichissement jugé d'une façon ou d'une autre injustifié, alors là, il y a une vraie bataille. Et là, quand les luttes sont extrêmement importantes, quand les réseaux sociaux, qui jouent un rôle considérable, assez virulente, ça, on peut mettre en cause même le président de la République, même Ho Rentao, Mwenyuan Chapao, et tout ça ne pose pas de problème. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire qu'on veut changer de système. Ça, c'est totalement impossible. Et le troisième défi, et j'en aurais terminé là, le troisième défi, c'est le défi politique précisément. C'est-à-dire que la part des gens qui veulent changer le système, ce qu'on appelle les libéraux, ça, peu de gens sont pour changer le système, pour l'instant. En revanche, une partie des gens, je dirais, les libéraux qui sont pour une grande vague de privatisation et de libéralisation politique, qui appelle le capitalisme à la chinoise. C'est-à-dire, ils veulent un système à la fois capitaliste développé avec plus de privatisation, et en même temps, ils ne veulent pas d'élection. Parce que l'élection, c'est le chaos. Donc, on est pour un peu de liberté, des syndicats un peu reconnus, pour quand même éviter ces mouvements sociaux dont tout le monde pense que ça va continuer à exploser. Donc, un peu de liberté là, un peu de liberté politique, c'est-à-dire un vrai débat public, par exemple, avec peut-être dans le parti, pour ceux qui sont membres du parti, des tendances pour que il y ait un vrai débat public, mais pas au-delà, hein, ça c'est. Et puis, il y a une partie qui est une partie, je dirais, on appelle la nouvelle gauche, qui est pour des droits sociaux. Une partie sont pour des droits sociaux et l'autoritarisme. L'autre partie est pour les droits sociaux et un peu de liberté, démocratiser les choses. Il reste que, comme dans les entreprises, là, il y a des bouts de choses qui sont en train de bouger. Est-ce que ça aura des conséquences au Congrès? Franchement, je crois que personne ne peut répondre. C'est la première fois depuis au moins 30 ans, c'est-à-dire depuis les changements, qu'il n'y a pas le début du commencement d'un texte qui circule sur ce que sera le Congrès.
On se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique pour ce numéro de septembre 2012, toujours dans le dossier consacré à la Chine et après l'intervention de Martine Bullard. On vous retrouve, vous, Anne Cheng, au sujet justement de ce que disait Martine sur le vide idéologique ou la confusion idéologique qu'il y a dans la Chine actuelle communisto-capitaliste et qui s'est trouvée une idéologie de substitution, le confucianisme. Maître Kong, puisque c'est son nom, a été un support politique et idéologique tout au long de l'histoire chinoise, l'histoire impériale chinoise, et vous revenez sur l'éternel retour de Confucius aujourd'hui.
Oui, en fait, Confucius est un produit de recyclage par excellence, puisque on pourrait dire que déjà au début de l'ère impériale, c'est-à-dire à peu près deuxième siècle avant Jésus-Christ, Confucius est déjà plus ou moins une invention qu'on a mise en avant pour servir en fait de figure de rassemblement pour une sorte d'idéologie d'État. Enfin, je vais très vite, hein. Mais le nouvel ordre centralisé impérial qui s'est instauré après le règne du premier empereur, vous savez, ce fameux premier empereur qui s'est fait enterrer avec son armée de terre cuite, etc. Donc là, nous sommes au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, s'instaure un nouvel ordre impérial centralisé. Et donc Confucius est déjà à ce moment-là utilisé comme une sorte d'icône pour représenter une forme d'idéologie d'État. Et dans toute l'histoire chinoise, en fait, il n'a guère cessé justement de jouer ce rôle, puisque son nom est intimement associé à un corpus de textes qui était censé être connu très bien par tous les candidats donc à l'administration impériale. Alors maintenant, dans la modernité, on peut dire que Confucius a eu une série de déboires que j'ai décrits dans mon texte du Monde diplomatique, c'est-à-dire que la modernité, en fait, s'est faite sur le dos de Confucius, on pourrait dire, puisque il fallait absolument, justement, se débarrasser radicalement de tout l'héritage culturel, sociopolitique qu'était censé représenter Confucius pour accéder à un type de modernité de type occidental.
C'est le décalage qui est apparu aux élites chinoises entre la suprématie économique, politique et militaire des Occidentaux à la fin du XIXe siècle et l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes et du confucianisme.
Oui, et effectivement, disons que les intellectuels chinois modernes, à partir donc du début du XXe siècle, ont commencé justement à attribuer à Confucius et tout ce qu'il représentait, en fait, l'arriération de la Chine et à le présenter comme un obstacle justement à l'accès à la modernité. Bon, ensuite, bien sûr, à partir de 1949, donc la Chine populaire a continué dans ce mouvement de destruction, enfin, de tout l'héritage culturel qui a connu un paroxysme avec la dite révolution culturelle dans les années 60 et 70, avec donc un paroxysme de destruction, même matérielle, physique. Peu de familles, enfin, comment dire, sont sorties indemnes de cette expérience. Et donc, il y a eu un retournement absolument spectaculaire, disons qu'à partir des années 1980, donc au moment où cet empire sort justement, en fait, du maoïsme. Cette espèce de retour de Confucius commence à sévir donc en Chine populaire même. Alors au début, nous avons des dirigeants qui sont quand même relativement méfiants vis-à-vis de cette option, parce que eux-mêmes, enfin, sont quand même, je veux dire, ont quand même été formés comme des marxistes purs et durs, et il est évident que, comment dire, le confucianisme représente véritablement l'antipode du dogme marxiste, hein, pas de lutte des classes, etc. Enfin bon, on est complètement aux antipodes, donc méfiance au départ, et puis ensuite, bon, petit à petit, on voit justement ces dirigeants commencer à percevoir les avantages justement d'une instrumentalisation de cette figure de Confucius, à la fois comme icône donc de l'identité nationale, qui est ravivée chaque fois qu'il y a des problèmes internes qui commencent à se faire sentir de façon trop criante. Donc là, chaque fois qu'il y a un problème, comment dire, extérieur ou intérieur, donc on remet justement en avant donc cette fierté nationale qui se double justement d'une fierté culturaliste. Alors, il y a cette instrumentalisation très claire pour compenser justement, comme vous dites, enfin, un vide idéologique. Bon, le maoïsme, le marxisme ont tous fait faillite. Et maintenant, nous avons donc un pouvoir dont l'objectif, je dirais, premier et essentiel est de maintenir la stabilité sociale pour pouvoir assurer une prospérité économique qui se maintienne assez longtemps, justement pour que la Chine se remette sur les rails et puisse justement rattraper le temps perdu vis-à-vis des concurrents occidentaux et notamment les États-Unis. Hein. Bon, donc c'est ça le plan, quoi. Et donc Confucius, qu'est-ce qu'il fait dans cette galère? Justement, il sert à moraliser donc la jeunesse et de réinsuffler, enfin, un peu de morale, etc. Alors actuellement, on parle beaucoup justement de remettre à l'honneur la piété filiale, qui est censée être une valeur confucéenne.
Alors, ça, j'allais vous demander, vous expliquer comment justement on a ressorti Confucius du placard avec une version un peu New Age qui puisse marcher avec le coaching. Avec l'efficacité.
New Age est surtout une version très autoritariste. Hein.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit, le père Confucius?
Le père Confucius, alors là, moi, je dirais écouter mes cours au Collège de France.
J'en étais sûr.
Podcastable gratuitement en français, en anglais et en chinois. Donc
on met le lien sur le site de l'émission.
Oui, donc là, vous verrez d'abord, en fait, ce que Confucius a vraiment dit. Ça, c'est à peu près aussi incertain que ce que Jésus Christ a vraiment dit ou ce que le Bouddha a vraiment dit. Hein, bon,
c'est bien pratique pour lui faire dire ce qu'on veut.
Exactement. Et d'autre part, ce qu'il est censé avoir dit dans les entretiens, il y a quand même, enfin, des passages qui sont extrêmement critiques, enfin, des dirigeants. En fait, on peut.
C'est pas l'art de la soumission comme on le dépeint trop facilement.
Tout. En fait, bon, bien sûr, les Confucéens se sont toujours présentés comme les conseillers du prince, mais comme des conseillers critiques, quelquefois, en fait, au prix de leur vie. Hein. C'est-à-dire que, bon, les Confucéens, ces conseillers du prince était censé faire de la résistance quand c'était nécessaire. Donc moi, je m'inscris là aussi en faux complètement contre ce Confucius consensuel qui est censé aller dans le sens du mot d'ordre actuel de la société d'harmonie socialiste.
Donc ça pourrait aussi apporter un petit grain de sel, une lecture critique de Confucius ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Là, je la recommande, mais évidemment, en sachant que ce qu'on entend, c'est peut-être pas entièrement la voix du père Confucius, comme vous l'appelez.
Merci beaucoup. Alors Marc de Miramont et Antonin Amado, on vous retrouve au sujet de la Syrie dans ce numéro du Monde diplomatique de septembre. La guerre civile fait rage depuis 18 mois. Depuis 18 mois, on dit que fait l'Europe, que fait ceci, que fait cela. Et vous avez essayé de raconter comment on raconte ça, c'est-à-dire de voir les problèmes que pose l'expression médiatique de cette histoire, sachant que pour les journalistes qui y vont, c'est très dangereux parce qu'il faut passer par la Turquie du côté rebelle.
Ou le Liban,
ou alors c'est les quelques journalistes qui ont les autorisations officielles du régime et qui donc ne peuvent que raconter, dans un cas que dans l'autre, qu'une version biaisée et parcellaire de la réalité syrienne, alors même que ça devient de plus en plus un enjeu pour les chancelleries occidentales. Qu'est-ce qu'on fait pour aider la Syrie ? Marc de Miramont.
Les journalistes, effectivement, qui vont sur place et qui passent par les filières de la rébellion, sont susceptibles d'être intoxiqués par cette rébellion, puisque... Ils veulent, en tout cas pour ce qui concerne le Conseil national syrien, ses relais sur le terrain, l'armée syrienne libre. Ils savent très bien, comme ils n'ont pas l'avantage sur le terrain militaire, ils ne peuvent renverser ce régime qu'avec une intervention étrangère. Donc la tentation est forte de reproduire ce qui s'est passé en Libye. Pour déclencher cette intervention, il faut effectivement que les opinions publiques occidentales pèse sur leurs dirigeants, et pour cela, il faut que Bachar el-Assad, effectivement, utilise ses armes chimiques contre la population, par exemple, ou alors qu'avec son aviation, il bombarde les civils, etc.
C'est la même surenchère qu'on a dans chaque conflit armé, où il est difficile d'avoir des informations recoupées, une surenchère dans les annonces d'un côté comme de l'autre. Vous parlez de la Libye, au début, Bernard-Henri Lévy, par exemple, avait parlé au début de la guerre en Libye, de frappes d'hélicoptères sur les manifestants de la population dans les faubourgs de Tripoli, ce qui n'était pas vrai, par exemple.
Effectivement, l'attaque de l'aviation de Kadhafi sur les manifestants était une invention de... On ne sait plus très bien qui l'a inventé au départ, mais l'AFP l'a relayé, par exemple, à l'époque.
Al Jazeera aussi l'a relayé, tout en reconnaissant a posteriori que, finalement, ils n'y croyaient pas trop, mais que, finalement, ils l'avaient quand même relayé, quoi. Donc, ce qui pose la question de la neutralité des médias. Mais dans une guerre civile, comme dans n'importe quel conflit, on sait qu'il va y avoir une manipulation médiatique. On est dans un monde qui est hyper connecté, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook. On sait très bien qu'entre le moment où il se passe quelque chose et le moment où le monde entier le sait, il y a quelques secondes, c'est pas plus. Nous, ce qui nous a vraiment interrogés, c'est le manque de recul des journalistes par rapport à ça, quoi. Par exemple, moi, je travaille en radio et je présente beaucoup de journaux. Europe 1, beaucoup. J'ai travaillé de temps en temps à BFM, voilà, des choses comme ça. La question, c'est que quand vous êtes en bout de chaîne, ce qui est exactement mon cas, et que vous voyez arriver jour après jour des dépêches qui sont contradictoires, pas sourcées ou ostensiblement fausses, mais ça, au bout d'un moment, vous dites, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. Le point de départ, c'est ça. Grosso modo, le schéma actuel, c'est il y a de gentils rebelles avec des armes légères et qui n'ont que leur courage pour affronter une armée sanguinaire à la solde de Bachar el-Assad, appuyée par les fameuses milices, les Chabiyas, qui massacrent du civil à outrance.
Alors, vous parliez de simplification à outrance. Au départ, on s'est beaucoup intéressé aux principales pourvoyeurs de dépêches des trois principales agences de presse, l'AFP, AP et Reuters, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bon. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, moi, depuis, ça fait un moment que je m'intéresse à cet organisme. Il est très mystérieux. Son fondateur est un parfait inconnu en Syrie. Il est tout seul avec un simple secrétaire. Ses correspondants sur le terrain ne se connaissent pas entre eux pour des raisons de sécurité. Donc, par définition, les informations qu'il donne sont invérifiables. Et bon, ça s'appelle l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Mais c'est clairement un organisme qui s'intéresse aux, aux violations des droits de l'homme commises par le régime. Et on est très 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 étonné de la légèreté, entre guillemets, des agences de presse qui relaient cet organisme, dont on ne sait quasiment rien, sans jamais les vérifier, sans même être en position de pouvoir les vérifier, puisque évidemment l'AFP ne fait plus fonctionner son bureau de Damas pour des raisons de sécurité. En gros, ils ne peuvent pas travailler là-bas. Hein. De toute façon, est-ce qu'on peut travailler dans un pays aujourd'hui comme la Syrie ? C'est la question de fond de cet article.
Oui, Antonin Madoff.
Au-delà de ça, c'est que la réponse de l'AFP, c'est de dire, par exemple, c'est l'organisme qui raconte le moins de bêtises.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les groupes d'opposition syriens ont tendance à jouer une surenchère. On parlait tout à l'heure de Bernard-Henri Lévy. Bon, nous, on raconte dans notre article que dès le mois de septembre de 2011, bon, dans un appel vibrant à une intervention de l'OTAN, il rappelait l'utilisation de gaz toxiques lâchés par des hélicoptères, je crois que c'était vers Homs ou Rastan. C'est une accusation récurrente des rebelles. Comment dire? Bon, l'AFP, par exemple, a essayé d'enquêter un peu sur place. Ils ont dit qu'on leur avait raconté cette histoire partout, mais qu'ils n'avaient jamais pu la vérifier de manière indépendante. Mais c'est une petite musique qui continue, pour une raison évidente, c'est que à la fois l'administration américaine et Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ont indiqué que c'était la ligne rouge à partir de laquelle il y aurait une intervention. Et évidemment, dans le massacre qui est aujourd'hui en cours en Syrie, les rebelles, c'est tout à fait logique, savent que pour renverser la vapeur, ils ont besoin de cette intervention. Et donc la question, c'est est-ce que c'est le travail de la presse de désinformer les lecteurs avec cet objectif en ligne de mire ou pas ? Voilà, c'est la question qu'on pose.
Et ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que les différentes mouvances de l'ASL sont financées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais on sait aussi que les chaînes que sont Al Jazeera et Al Arabiya sont également financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc en fait, on a la même source de financement et les mêmes soutiens pour un organe de presse, pour des organes de presse et pour la rébellion armée. Il faudrait être très naïf pour pas penser que il y a des ponts entre les deux, quoi. Et que aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une influence des régimes qataris et saoudiens sur à la fois le conflit syrien et sur le storytelling, l'histoire qu'on raconte de ce conflit et de cette guerre civile. Mais il faudrait quand même aussi ne pas oublier que l'Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas des démocraties et il faudrait être particulièrement naïf pour penser qu'elles œuvrent à la mise en œuvre d'une démocratie dans la région. Ça n'est pas leur intérêt.
Serge Halimi ?
Oui, moi je crois qu'il faut effectivement insister sur l'étrange impunité médiatique et diplomatique dont bénéficient certains acteurs directs ou indirects du conflit. Et on pense à l'Arabie Saoudite. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de campagnes d'opinion contre les atteintes aux droits de l'homme en Arabie Saoudite qui pourtant sont massives qu'ailleurs. Quant au reste, il est certain que le régime syrien commet des atrocités sans nombre et d'une cruauté inouïe. Mais ça renvoie un peu à la question du storytelling que vous évoquiez tout à l'heure et dont on a eu d'autres précédents quand même. On pense au combat du gentil Massoud contre l'Union soviétique en Afghanistan, qui a conduit certains journalistes occidentaux à célébrer à un moment les talibans parce qu'ils menaient le bon combat contre le communisme. Plus près de nous, on pense aux gentils soldats de Loucheka au Kosovo contre la Serbie de Milosevic. Et depuis, on a appris tout ce qu'on sait sur Loucheka, sur le trafic d'organes, etc. Et on s'est donc aperçu qu'un certain nombre de ces héros de la bonne cause démocratique étaient en fait des personnages ou des institutions assez discutables, ce qui n'enlève rien à la cruauté des institutions ou des pays ou des régimes qu'ils combattaient.
On peut dénoncer les méchants sans nécessairement se tromper sur les gentils.
Voilà.
Merci beaucoup.
يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا C'était les débats du monde diplomatique. Ce mois-ci, autour de Guy Van Ctil, vous avez pu entendre Han Cheng et Martine Bullard pour le dossier Chine, Benoît Bréville pour l'enquête sur l'obésité, Antonin Amado sur le conflit syrien et Serge Halimi sur les élections américaines. À noter cette semaine la sortie en librairie de l'Atlas 2013 des mondes émergents du monde diplomatique avec un avant-propos signé par Serge Halimi. Un numéro que vous pouvez commander en ligne à l'adresse suivante boutique@monde-diplomatique.fr. Vous pourrez évidemment retrouver toutes ces informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-ba.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, aujourd'hui, Dophar Guéry et Jean-Philippe Jeanne, montage Antoine Chao et Bertrand Chaumeton, réalisation Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistée de Pierre-Yves Bulteau, et c'est Solène Cordier qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
SNCF. Aujourd'hui, la rentrée à petit prix.
Bonjour, je ne suis actuellement pas disponible pour l'enregistrement de ce spot radio. Et oui, avec tous ces petits prix, j'ai prolongé mes vacances à la plage et à la campagne aussi. Et pourquoi pas à la montagne. Merci de me recontacter ultérieurement ou de laisser un message après le bip.
Ah, bon. Jusqu'au 25 septembre, profitez de billets TGV des 30 euros pour des voyages du 14 septembre au 21 octobre. Offre soumise à condition, également disponible avec Intercité. SNCF.
France Inter, partenaire du Festival America à Vincennes du 20 au 23 septembre. Rencontres, débats et séances de dédicaces. Plongez pendant 3 jours au cœur des littératures du continent américain, du nord au sud. Toni Morrison, Russell Banks, Louise Erdrich, Carlos Lizcano, Luis Sepúlveda. 72 écrivains originaires de 13 pays offrent leur regard sur le monde, ses bouleversements et fêtent les 10 ans du Festival America. Renseignements sur franceinter.fr.
Et après le journal, c'est Frédéric Lodéon. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Sitôt rentré de Marseille, Jean-Marc Ayrault a pris le chemin de l'Assemblée nationale pour le début de la session extraordinaire. Lors des questions au gouvernement cet après-midi, le Premier ministre a promis des propositions d'ici la fin de l'année donnant lieu à un vrai choc de compétitivité. Mais ce sera après la remise du rapport du commissaire général à l'investissement, Lou Gallois. Son document est attendu pour début octobre. Jean-Marc Ayrault a rappelé aussi qu'il avait demandé aux partenaires sociaux d'aller plus vite dans leurs négociations sur le travail. Au menu également de cette rentrée parlementaire, les emplois d'avenir. Ce sera le premier texte examiné à l'Assemblée. Celui sur le logement sera défendu d'abord au Sénat par Cécile Duflot, la ministre. Plusieurs centaines d'ouvriers de PSA se sont réunis aujourd'hui devant l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Ils demandent à être reçus par François Hollande. Ils ont dénoncé le rapport Sartorius commandé par Bercy au lendemain de l'annonce de la suppression de 8000 postes et de la fermeture de l'usine d'Aulnay cet été. Remis au syndicat et à Arnaud Montebourg, le rapport juge inévitable le plan de suppression d'emplois. C'est la conséquence de mauvais choix stratégiques de la direction, mais PSA doit réorganiser son activité industrielle. Le ministre du redressement productif propose une réunion entre l'État maintenant, les syndicats et la direction pour discuter du plan social de Peugeot-Citroën. Les pouvoirs publics feront tout pour réduire l'ampleur de la suppression de ces postes, a fait savoir de son côté François Hollande. C'était cet après-midi. Le chef de l'État a fait cette déclaration devant les représentants syndicaux de l'usine PSA de la Jeannet, près de Rennes, qu'il a rencontré avant de se rendre au Salon international de l'élevage. L'avertissement de Moody's aux États-Unis. L'agence de notation menace de priver les États-Unis de son triple A si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord en 2013 sur le budget. Un avertissement qui intervient à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les deux candidats, Obama et Romney, ont décidé de faire une pause dans la campagne pour commémorer le 11e anniversaire des attentats du 11 septembre. 3 mois de prison avec sursis pour un opposant historique à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Le tribunal correctionnel de Nantes a rendu son jugement cet après-midi. Sylvain Fresneau était poursuivi pour avoir reculé son tracteur en direction d'un barrage de gendarmes le 21 juin dernier. Il a décidé de faire appel de sa condamnation. Le bilan définitif de l'accident de car polonais ce matin près de Mulhouse est de 2 morts et 13 blessés graves. Information donnée par la préfecture du Haut-Rhin cet après-midi. Les deux conducteurs du car ont été placés en garde à vue. A priori, le car aurait basculé après une prise de trajectoire brutale. Le ministre délégué au transport, Frédéric Cuvillier, est attendu dans le courant de l'après-midi. Enfin, dans la tuerie de Chevaline, un des deux juges d'instruction chargés de l'enquête en Haute-Savoie, ainsi que le procureur d'Annecy. Et ils sont annoncés jeudi en Angleterre pour notamment nouer des liens avec les enquêteurs britanniques. Cette visite devrait durer 24 heures. Elle a aussi pour but de suivre le déroulement de l'enquête et donc l'application des commissions rogatoires. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous maintenant.
Et bonjour Laetitia, merci.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a des compositeurs qui restent cachés pendant des années, voire des siècles, et puis qui reparaissent brusquement, on en est très content, comme par exemple Johann Friedrich Fasch. C'est fou ce que ce compositeur maintenant est édité, et on trouve de très beaux disques comme celui publié par Chaconne. Et là, il y a des œuvres d'orchestre quelquefois très brillantes, on suppose que c'est pour des anniversaires ou bien des grandes réceptions à la cour que Fasch a écrit ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était très moderne, parce qu'il a inventé et proposer le troc entre les cours où on jouait de la musique ou les églises. Pourquoi acheter des cantates? Pourquoi aussi demander à des compositeurs d'écrire seulement pour un seul lieu? Il a proposé que l'on échange les musiques pour faire des économies. Vous voyez, c'est un peu comme le covoiturage aujourd'hui. Et bien, de ce grand collègue de Jean-Sébastien Bach qu'il admirait, d'ailleurs, c'est-à-dire Jean-Sébastien admirait Fasch et c'était réciproque, voici un allegro tiré d'une ouverture en ré majeur, bien sonore, avec trompette, timbales et tutti quanti.
Thank you.
Johann Friedrich Fasch, ça s'écrit F-A-S-C-H, donc compositeur contemporain à peu de choses près de Jean-Sébastien Bach, cette ouverture magnifique, somptueuse, que n'aurait pas renié Jean-Sébastien, d'ailleurs, a été interprétée par l'ensemble Tempesta di Mare, donc la tempête de mer, fameux titre de Vivaldi, entre autres, et c'est un orchestre baroque qui est basé à Philadelphie. Ben, le grand Jean-Sébastien, lui, il a été oublié un petit peu aussi, c'est vrai, après sa mort, mais pas si longtemps que ça. Et puis après, on ne l'a plus jamais oublié. Un grand maître qui a disparu il n'y a pas si longtemps non plus. Enfin là, c'est tout à fait récent, c'est à notre époque. Il nous a quittés. Gustave Léonard a enregistré presque tout Jean-Sébastien Bach, soit à l'orgue, soit au clavecin, soit en dirigeant. Donc chez Vivarte, on trouve des suites françaises, des inventions, des symphoniers, des petites pièces très, très riche mais écrite pour le clavier, le concerto italien qui malgré son titre est écrit aussi pour un seul instrument. Le concerto en principe c'est un dialogue entre un soliste et puis ou